merveilleux panel de livres qui sont là, aux Forges du Vulcain et puis au format point. Voilà. Donc c'est Camille qui cette fois-ci prend les rênes et va donc avoir une conversation croisée avec ces deux hôtes. Voilà. Donc je laisse Camille nous parler des livres et puis avec et nous parler d'édition aussi. C'est ouais. Pour savoir que David Menemoir c'est éditeur. Donc c'est très intéressant qu'il puisse se déplacer effectivement avec son auteur. Ça donne aussi comme ça une résonance particulière aussi que moi j'aime beaucoup. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir tous les deux ici dans notre librairie. Mmh. Voilà. À toi Camille.
Ok. Alors je ne sais pas comment, par qui on commence. Moi j'ai un peu fait des recherches sur vous deux. Après, l'idée, c'est qu'on croise aussi nos conversations et qu'on parle de votre lien éditeur-auteur aussi. Mais on peut commencer par toi, David, si tu veux, parce que tu as un parcours un peu particulier, parce que tu n'étais pas parti pour faire de l'édition à la base. Donc, j'ai vu que tu avais fait... Tu étais enseignant en philo et expert déontologie.
Oui.
Entre autres. Et ensuite, tu t'es dirigé plus tard vers l'édition.
Oui.
Alors.
On fait la prochaine. On bascule tout de suite dans la fiction, donc c'est Gilles qui va raconter.
Je vais pas raconter la vie de David, mais il y a quand même un passage professionnel qui est assez étonnant et peu habituel.
Oui.
Et c'est pas secret, je crois.
Non, c'est. Oui, enfin,
donc, en fait, t'en es pas très fier.
Il va parler de quoi?
Là, tu vas directement.
Mais... Ouais, je vais aller droit.
Non, mais vas-y, raconte ta vision des choses.
Non, t'as été gendarme.
Non, alors j'ai pas été gendarme. j'ai pas été gendarme parce que les gendarmes sont des militaires et donc j'ai été civil de gendarmerie pendant quelques années.
D'accord.
Et c'était très formateur. Et en fait, non, c'était très important pour moi comme expérience. Initialement, j'étais professeur de philosophie. Je suis allé faire de la philosophie parce que c'était la discipline de sciences humaines qui était la plus facile pour moi et qui demande généralement le moins de travail. Parce que si vous devez faire des études d'histoire avec lesquelles j'ai hésité, il faut lire beaucoup. La philosophie, il faut parler beaucoup. Et je suis très bavard. Donc, j'ai fait des études de philo. Mais en fait, j'avais toujours fait du livre, mais sans penser, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour être éditeur. Donc quand j'étais enfant, je fabriquais des livres, j'ai participé à beaucoup de revues quand j'étais adolescent ou étudiant. J'ai fait des études de philosophie, j'ai enseigné la philosophie. Et puis, sur mon temps libre, j'ai créé avec des amis une maison d'édition parce que c'était la continuation de ce que j'avais fait quand j'étais adolescent ou étudiant. Un jour, je me suis dit, j'aimerais avoir du temps pour m'occuper un peu plus de la maison d'édition. Et donc, j'ai cherché un métier un peu plus calme, avec des horaires plus stables, puisque ceux qui sont parmi vous enseignants ou enseignantes savent qu'on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire, on peut parfois, quand on aime beaucoup le métier d'enseignant, on le fait ça aussi les soirs, le week-end, et voilà. Et donc, j'ai écrit à tous mes amis, et l'un d'entre eux travaillait en gendarmerie. Il m'avait dit qu'il cherchait quelqu'un qui avait plutôt un profil de philosophe. Et donc, j'ai travaillé en philosophie comme déontologue. Et je ne vous en dirai pas plus ce soir, parce que ce n'est pas le sujet de la soirée. Mais c'était une expérience très intéressante, parce que j'ai travaillé avec des gens très bien et très carrés, ce qui est très utile pour faire de l'édition. Et l'autre chose, c'est que j'avais un chef super, un général 4 étoiles, qui était... honnête, intelligent, éthique, qui voulait que ses subalternes grandissent, apprennent, se perfectionnent. Et ce fut une très bonne expérience pour moi, parce que je me suis rendu compte que je détestais avoir un chef, même un très bon chef, parce que la plupart des gens, ils n'aiment pas avoir un chef, parce qu'ils ont des mauvais chefs. Et moi, j'ai eu un très bon chef, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir un chef. Et donc, j'ai décidé qu'au lieu de rentrer dans une maison d'édition où je serais salarié ou éditeur, je créerais ma propre maison. Et donc, j'ai créé ma propre maison, où je suis chef, et après je me suis rendu compte que j'étais, en fait, esclave de moi-même, mais au moins j'ai pas de
maître. Tu peux pas t'en vouloir.
Voilà, c'est ça. Enfin, si je m'en veux,
parfois.
Non, voilà. Et donc c'est mon parcours. Ouais. La maison d'édition a été créée en 2010. Elle a petit à petit grandi, jusqu'à un moment charnière dans l'histoire des Forges, la rencontre en 2015 avec Gilles Marchand.
Waouh.
s'occupe des transitions.
Ça, c'est très bien.
Fondu au noir.
Donc, je vais fermer mon petit carnet. Non. Ouais, donc oui, en fait, oui, depuis 2010, ça a commencé vraiment l'édition.
Oui.
Voilà. Mais après, le roman de Gilles a vraiment fait décoller la maison d'édition.
Alors non, on avait déjà gagné des prix, donc on, quand même en 6 ans, on avait
moi,
fait des choses.
Moi, je préfère la version... Oui.
J'ai
essayé de faire la version courte, et là, on nous relance, on nous demande, allez, quelles sont les scènes coupées? Alors, les scènes coupées, c'est que... Non, on a déjà... En fait, ce qu'il y a, c'est que... Parfois, quand on parle de l'édition, on va juste parler des textes, comme si le succès d'un texte, ce qu'on appelle le succès, c'est il va se retrouver dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques, dans les foyers de tous les Françaises et Français, on va en parler à la télé. On fait comme si le succès d'un texte, c'était uniquement la qualité d'un texte. Mais l'histoire de l'édition, en Occident et sans doute ailleurs, est faite de textes qui étaient fantastiques, mais qui n'ont pas eu de succès. Parce que le succès, c'est pas simplement la qualité d'un texte, son intelligence, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, toute la vie éditoriale qu'il y a autour. Et les premières années, comme moi, je n'étais pas issu de l'édition, j'avais des petites lacunes professionnelles, j'en ai encore, mais j'en ai moins maintenant. Et donc, on a fait des textes qui sont superbes, dont je suis encore très très fier, mais c'est vrai qu'on rencontrait moins de succès. On gagnait beaucoup de succès d'estime, donc des prix qui étaient souvent des très belles médailles en chocolat. Mais voilà, donc le travail éditorial était déjà là, mais on n'avait pas encore un très très grand renom. Parce mais on a sorti des très bons textes quand même.
T'as pas fait que du texte papier, il y a aussi des textes numériques.
On a fait un peu, dans les années 2010, il y avait une sorte d'engouement sur le numérique où tout le monde pensait que ça décollerait de manière merveilleuse. Et donc, moi qui ai un esprit un peu curieux, on en a fait pas mal. Ça n'a pas particulièrement fonctionné. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que moi-même, je ne lis pas beaucoup de textes numériques, notamment parce que juste la lecture papier, ça permet d'éteindre les écrans, ça permet de se reposer. Et puis surtout, le numérique, c'est souvent lié à l'environnement du travail.
Faire vivre les libraires.
Et accessoirement, faire lire les libraires.
Pour moi, c'est une vraie question. La question du numérique, moi, je suis plutôt... Enfin, être opposé au livre numérique, c'est un peu catégorique, mais... c'était une vraie question qui m'embêtait au début. Je tiens pas à ce que mes livres soient en numérique. Alors, pour certaines personnes, c'est pratique. Par exemple, pour mon grand-père, qui était âgé, pouvoir lire mon livre, parce que quand le livre papier devient trop lourd, ça peut avoir une utilité. Pour beaucoup, pour beaucoup de types de livres, ça peut être utile. Mais ça m'embête, je dis pas ça parce que je suis en librairie.
Mais non, il me le dit depuis des années.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est une question ambiguë. Moi pour le savoir, l'économie de la librairie est suffisamment fragile. Si on vous prend 15% ou 20% de vente, je sais pas comment vous allez faire pour continuer.
Après, donc, le livre papier est apprécié encore et les gens ont besoin de ce contact papier. Je pense que la plupart, moi je sais que la plupart des gens avec qui je discute, qui lisent sur tablette, c'est une question pratique. Donc que ce soit pour l'écriture, le texte, ou pour partir en voyage et avoir tous ces livres avec... Mais c'est des lecteurs de livres papier. J'ai rarement de gens qui lisent vraiment presque que du numérique. Mais c'est vrai que c'est une vraie question et... Du coup, toi, t'as pu voir que ça marchait pas plus que ça.
Non, mais je l'ai fait sérieusement. Méthodiquement, on avait inventé quelque chose dont j'étais très fier, où on a gagné des petits prix pour ça. On avait inventé des choses qui ressemblaient à des cartes bancaires, sur lesquelles il y avait une puce USB, et comme ça, on pouvait vendre un livre numérique, mais sous un format matériel, qu'on pouvait vendre en librairie, avec un code barre dessus. Donc les gens en librairie l'achetaient, puis chez eux, le connectaient sur l'ordinateur ou leur téléphone, et voilà. C'était rigolo, mais en fait, on dit toujours qu'il ne faut pas confondre invention et innovation. Une innovation, c'est une invention que les gens ont adoptée. Et en fait, tout le monde trouvait ça rigolo, mais personne n'allait acheter ce type de choses. Voilà. Mais on en a offert beaucoup. On en a offert beaucoup et pas vendu beaucoup. Ouais. Et puis finalement, mais c'est même pas une question d'être pour ou contre le numérique. C'est simplement que le papier, c'est un objet qui fonctionne très très bien. Et donc, c'est d'un point de vue adoption, il est plus simple à manier que du livre numérique. Et voilà. Et c'est pour ça que... D'ailleurs, il y a deux jours, c'était l'anniversaire de la Bible de Gutenberg, qui est fêtée chez les imprimeurs comme étant une date importante. Oui. 1455, première mise en circulation d'une Bible imprimée avec des caractères mobiles.
Voilà. C'est vrai. J'y avais pas pensé. Donc oui, tu avais vraiment Alors, ce que j'ai aimé dans certains de tes interviews, tu disais que tu aimes les textes que tu publies. Donc il y a un
Oui.
vrai choix de textes. C'est combien de textes par an là en ce moment?
Alors les forges, j'en ai à 10 titres par an. Pour une maison indépendante, c'est la norme. Souvent, la plupart des maisons indépendantes vont être par collection à 10 titres. Nous, on a principalement une collection qui est une collection de fiction où on fait des romans. Et 10 titres, c'est un peu une sorte de maximum. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet, moi, de choisir les titres et de les faire bien et de les accompagner. Par exemple, en venant en librairie parfois avec les auteurs. Je fais pas ça tout le temps. Je fais ça parce que c'est Gilles. Voilà. Non, je le fais aussi avec d'autres auteurs. Et non, mais faire peu de textes, c'est aussi l'assurance de les avoir vraiment faits. Parce que dans l'édition, on peut toujours être. C'est ce qu'on appelle un marché de l'offre. C'est-à-dire, on produit plein de livres. Et il y a quelques livres que vous allez aimer, qui vont vous intéresser. Et plein de livres qui vont disparaître. Voilà. Et au sein de cette surproduction, il y a souvent des livres qui sont pas toujours complètement pensés. C'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, mais c'est qu'ils manquent de temps. Parfois, dans certaines maisons d'édition, ils doivent faire beaucoup de livres pour que la maison existe. Et il y a pas mal de maisons dans l'édition indépendante qui ont décidé depuis 7-8 ans de faire moins de livres, de manière à les faire mieux et les accompagner mieux. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est vraiment une sorte de mouvement dans l'édition française. Et donc c'est ça, on fait moins de livres pour les faire un peu mieux.
Ben, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'en suivant pas mal tes actus sur les réseaux sociaux, on voit que tu accompagnes les auteurs. Tu les montres, tu montres les interviews, on voit que tu les connais, que tu soutiens vraiment ce qu'ils écrivent. Et tu as quand même des textes originaux. On sent que tu as une volonté de montrer des textes que tout le monde n'irait pas chercher.
Ben, en fait, l'idée, c'est aussi de se dire que si on crée une nouvelle maison d'édition, ça sert à rien de faire les mêmes livres que les autres. Parce que, à la fois pour des raisons de principe, des raisons abstraites, de dire ça sert à rien de faire ce que quelqu'un d'autre fait déjà. Et puis pour des raisons très pratiques, c'est que généralement, si on fait quelque chose que quelqu'un fait déjà, mais qu'il le fait depuis 20 ans, généralement, on part avec un très gros désavantage qu'on n'arrivera jamais à combler. Donc mieux vaut publier des choses qui sont un peu plus originales. Après, sur le rapport avec les auteurs, et là, je vais revenir à Gilles, il y a quand même quelque chose qui s'est passé de manière très importante dans les forges. C'est qu'une expérience très personnelle très importante pour moi, c'est que j'ai fait de l'âge de 6 ans à 28 ans du théâtre amateur et du théâtre étudiant, et j'aimais beaucoup vivre en troupe, surtout quand j'étais étudiant, la vie de troupe, comment il y avait un projet collectif. Et je ne pouvais pas continuer à faire ça au-delà d'un certain âge, parce que le théâtre, c'est très exigeant, l'édition aussi, mais de manière différente, c'est-à-dire que le théâtre, on n'a pas besoin d'être en permanence à l'autre bout de la France, ou voilà, donc l'édition, c'est plus calme de ce côté-là. Mais je voulais garder, en passant dans l'édition, des choses qui me semblaient des sources de création dans le théâtre, c'est-à-dire une forme de travail collectif. Au début de la maison d'édition, entre 2010 et 2015, je professais ça, mais c'était un peu abstrait. Parce que on peut dire qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas trouver le moyen de le faire. Voilà. Et naturellement, l'édition, depuis 70 ans, n'est plus quelque chose de très collectif. L'écriture est redevenue quelque chose de très individualiste, de très individuel, pardon. Alors que ce n'était pas ça au 18e, au 19e siècle. Et donc je professais des valeurs, mais je n'arrivais pas à les faire incarner. Et en fait, un tournant dans la maison, qui est un tournant qui est invisible, mais très important dans le fonctionnement de la raison, c'est la rencontre avec Gilles. C'est-à-dire la rencontre avec, certes, un très bon texte, mais après, derrière le texte, rencontrer la personne. Par exemple, dans l'imaginaire que vous pouvez avoir de l'édition, et je ne sais pas si c'est votre imaginaire, donc voilà, mais voilà, il y a parfois des gens qui pensent que. Dans l'édition, on a des auteurs qui sont des divas et des éditeurs qui peuvent être complètement soumis à l'auteur parce que l'auteur est un artiste insupportable, mais il est tellement fantastique qu'il faut tout accepter. Alors que moi, j'avais l'habitude d'avoir des relations, notamment au théâtre, très équitables et très directes avec les gens, des relations d'égalité, d'artisan à artisan et de respect mutuel. Et en fait, avec Gilles, c'est la première fois que ça s'est complètement mis en place. Et que non seulement ça s'est mis en place, Mais je me rendais compte avec le compagnonnage artisanal avec Gilles que ça pouvait être la règle. Et c'est devenu la règle. C'est-à-dire qu'à partir de Gilles, dans les textes qui ont été choisis et le critère de sélection des auteurs, il y a eu ce critère de mettre en place des règles de travail équitable, de bienveillance mutuelle des artisans, qui sont devenues la règle. Et c'est devenu de plus en plus facile parce que plus le cercle des auteurs s'étendait, plus en fait les auteurs eux-mêmes projeter cette image sur les nouveaux entrants. Et ça faisait saillir chez chacun des qualités qui sont parfois complètement endormies dans l'édition. Parfois, l'édition traite les auteurs avec un peu de distance. Ils sont pas au courant de ce qui se passe, ils sont pas au courant de ce qui arrive à leurs livres, ils sont très isolés chez eux. Alors que on essaye même, parce qu'avec le concours des auteurs et des autrices, de créer quelque chose de plus collectif. Après, je précise qu'il n'y a pas d'école des forges. C'est-à-dire, on n'a pas une esthétique particulière où on travaillerait tous dans le même sens. Au contraire, le fait d'avoir cette forme de respect mutuel fait que ça les encourage à être singuliers. Donc, Gilles Marchand, il a son propre imaginaire, sa propre manière d'écrire, son propre grand projet d'œuvre, qui n'est pas le même qu'Alexandra Kochelik, qui n'est pas le même que Romain Ternaux. C'est des esthétiques avec des tonalités très, 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 très fortes, en
Et
fait.
c'est chouette d'avoir réussi à faire ça en fait, d'avoir réussi à
Et ben
en
c'est de
faire
la
une règle et
coproduction. C'est de la
Oui,
coproduction
parce
avec
que
Gilles.
très concrètement, alors ce qu'on faisait avant la crise sanitaire, c'est qu'on se retrouvait tous les mois autour d'un dîner. Alors tout le monde ne venait pas à chaque fois, mais ça fait dire il y avait à chaque fois une dizaine, entre 8 et 12 auteurs qui se retrouvaient une fois par mois, en fonction des disponibilités, de manière, et on parlait de tout, à la fois d'écriture, d'actualité,
Oui, il y avait le
des
côté
maquettes, des
humain
titres.
derrière, derrière l'auteur et les livres. Et c'est vrai que pour en avoir lu pas mal, du coup, aux Forges de Vulcain, parce que tu m'envoies souvent les livres quand je les demande, j'en ai lu pas mal, tous très originaux en plus, c'est ce que j'aime, mais dans des styles totalement différents. Et du coup, je me dis que forcément, les personnes derrière sont toutes différentes aussi, mais on sent cette unité, enfin. Du coup, je te dis, sur les réseaux et ce qui ressort de la maison d'édition, on ressent l'unité et le lien entre vous. Et enfin, moi, personnellement, c'est pour ça aussi que je suis la maison d'édition depuis un moment. Et c'est vrai que dans le texte, on sent aussi que tu défends quelque chose. Je pense que ça se ressent quand un éditeur est derrière et qu'il choisit ses textes. Voilà, il y a.
Ben, merci beaucoup de nous
Voilà.
suivre, hein, et de cette présentation qui est très juste. Mais c'est lié aussi au fait que le mode de fonctionnement est venu de manière très organique, très naturelle,
Naturel,
par le travail avec les auteurs. Et ça change en permanence. Bon, alors là, je pense quand même que les dîners, j'aimerais qu'on refasse ça, puisqu'on va petit à petit sortir de cette crise sanitaire. Donc on va pouvoir le refaire. Les dîners, ça répond aussi à autre chose, c'est que il s'est établi une sorte d'imaginaire sur l'écriture qui est l'écriture, il faudrait être seul dans son coin, souffrir pour écrire. C'est un imaginaire qui a été construit par la littérature parfois. Mais quand vraiment on se documente sur certains grands écrivains, beaucoup de grands écrivains, on découvre qu'ils ne créaient pas du tout comme ça. Ils participaient à des cercles, ils avaient des amis. Franz Kafka, alors je donne toujours l'exemple de Franz Kafka parce que c'est un de mes auteurs préférés, dans son journal et dans les récits de ses amis, parce que ses amis étant des écrivains, ils ont aussi parlé de Franz. On découvre que le matin, il écrivait un peu, il allait travailler, en milieu d'après-midi, c'était la fin de la journée, il habitait à Prague, il va au café, il retrouve son cercle d'amis, il leur lit des extraits. Quand ses amis rigolent, il les range dans sa pochette et il part avec et il sait que ça intégrera un texte. Quand ses amis ne rigolent pas, il en fait des boulettes qu'il jette comme ça. Et en fait, c'est une forme de création où d'autres personnes l'accompagnent, mais ça ne retire rien au fait que les textes de Franz Kafka ont été écrits par Franz Kafka. C'est pas parce qu'il y a cette interaction avec d'autres artistes que les autres l'influencent vraiment, en fait. C'est un auteur qui a une voix très propre, en fait, y compris au sein du cercle des auteurs de Prague. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'écrivains, par le passé, avec ce sort de compagnonnage, parce que travailler tout seul dans son coin ne vous assure pas de faire quelque chose de singulier, parce que vous pouvez être tout seul dans votre coin, et parce que vous êtes tout seul, vous pensez beaucoup trop aux autres. Et comme vous pensez trop aux autres, votre esprit est complètement colonisé par une sorte de vous demander ce qu'ils attendent, et voilà, et ça peut vous amener, en étant tout seul, à écrire des choses qui n'ont aucune originalité. Et l'autre chose, c'est que parfois, écrire, ça demande toujours un effort. Et que voir d'autres personnes qui écrivent, ça vous encourage parce que vous vous dites, c'est faisable, c'est possible. Voilà, et surtout que les auteurs des forges sont comme la plupart des auteurs en France, c'est-à-dire ils ne vivent pas de leur plume. Ils ont tous des métiers et ils trouvent le temps d'écrire parce que c'est un temps où ils renoncent à des sorties avec des amis, ils renoncent à certains événements familiaux, ils renoncent à des vacances, à des loisirs pour écrire. Et donc ils se donnent du courage mutuel. Bon, après, il y en a qui ont besoin de beaucoup de courage, il y en a d'autres, c'est plus naturel, voilà. Je sais pas, toi, tu... Est-ce que ça t'a aidé ou non? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette...
Moi, je n'écris pas tellement dans la souffrance. Je trouve qu'on souffre mieux un verre à la main avec des amis.
Oui, c'est donc, ça.
Donc, moi, je ne suis pas...
Mais toi, t'avais déjà 4 textes sous le coude. 4 textes de fiction longs.
Oui, j'avais 4 romans déjà que j'avais écrits avant de 3 ou 4. Enfin, je suis tendance à confondre entre ceux que j'ai réécrits, ceux qui sont vraiment pas bons, ceux que j'espère publier un jour. Enfin, il y en a un peut-être que j'espère publier un jour, mais les autres, je n'y tiens pas. Donc moi, j'écrivais sans but de publication au début. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on sait qu'on est publié, la souffrance n'est pas la même pour le coup. Enfin, on sait qu'on va rencontrer, en tout cas on espère qu'on va rencontrer un public, des lecteurs. On ne sait pas dans quelle quantité, on ne sait pas si ça sera 10 personnes ou 10 000. Mais c'est pas tellement une question que je tiens à me poser, moi, ça. Donc,
Non, mais il y a aussi un petit truc qu'on essaye de mettre en place. C'est que parfois, dans l'édition, on peut être cruel. C'est-à-dire, un auteur publie, il rencontre pas le succès. Et assez vite, sa maison d'édition lui fait signe qu'ils vont pas retravailler avec lui. Et ce qu'on essaye de mettre en place, mais ce qui, de nouveau, n'est pas original au sein des forges, c'est-à-dire, il y a plein d'autres maisons indépendantes qui font ça, c'est de dire à l'auteur que si on aime son univers, on le suivra.
On va le suivre.
Et que les ventes, il faut vendre pour pouvoir continuer à exister, mais ce n'est pas le seul critère de succès, en fait. Et il y a cette idée de dire... Tu seras toujours le bienvenu et on va t'accompagner titre à titre. Alors pas d'un point de vue, on le fera pas de manière passive, c'est-à-dire va falloir travailler à chaque fois. Faut retravailler les textes, faut toujours rester ambitieuse ou ambitieux sur le texte qui vient. Cette idée que voilà, dès qu'on est rentré dans le cercle, on peut continuer tant qu'on voudra continuer. Par contre, les auteurs sont complètement libres. Le jour où ils veulent partir dans une autre maison, ils le peuvent.
Hein, et je trouve ça important aussi, en tant que lectrice, je suis contente de retrouver les auteurs à chaque fois chez le même éditeur. Parce que je me dis qu'on ressent le lien aussi comme ça. J'ai toujours eu un pincement au cœur quand je voyais un auteur, le nouveau roman, sortir dans une autre maison d'édition. J'ai toujours... moi, personnellement, après, ça se passe peut-être pas du tout comme ça, mais j'ai une impression... de quelque chose qui a cloché et je sais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les auteurs changent d'éditeur, après c'est pas, ça nous regarde pas non plus, mais c'est vrai que là Gilles, j'ai lu donc le roman Une bouche sans personne il y a quelques années et au fil des années qui ont passé, à chaque fois je voyais tes nouveaux romans sortir parce que David en parlait et ça fait plaisir de voir que ça continue et qu'on peut se retrouver encore aujourd'hui autour des forges.
Et le prochain sera aussi chez David.
J'espère bien.
on peut l'annoncer.
D'ailleurs, c'est quand
Mois d'août. 22, tu m'as dit 22 août. Non, 20. Fin août, c'est pour la prochaine
rentrée littéraire. Avant-dernier vendredi d'août.
Donc, prochaine rentrée littéraire. Ouais.
Juste un point de détail. C'est vrai que... Alors moi... Quand j'étais enfant et adolescent, ça me peinait toujours quand un auteur changeait de maison parce que je suis très collectionneur et maniaque sur les bibliothèques. Et je me disais, ah là là,
ça va
plus aller. Voilà. Après, parfois, ces changements sont tout à fait légitimes parce que dans le terme éditeur, en français, il y a deux choses, deux réalités distinctes derrière le même mot. Il y a la maison d'édition et il y a la personne qui édite. Et parfois, la personne qui édite va changer de maison d'édition. Et donc, les auteurs sont infidèles à la maison d'édition, mais en fait, ils sont fidèles à la personne qui a fait le vrai travail intellectuel avec eux. Mmh. Donc parfois...
Oui, il y a par exemple beaucoup des auteurs de L'Olivier qui sont partis chez Flammarion parce que l'éditrice de L'Olivier était partie chez Flammarion.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils sont loyaux,
humain derrière.
Mais ils sont loyaux, justement, à la personne qui travaille le texte.
Oui, donc au final, c'est plus important aussi.
Oui, parce que... Mais aussi
c'était
parce
pas un
que...
problème de bibliothèque chez moi.
Non, je sais, ça j'ai compris que chez toi, c'était... Moi, c'était vraiment... Je sais, c'était immature, merci de le faire sentir, mais voilà. Non, mais c'est aussi soit des histoires d'amitié, soit parfois, on dit un texte, c'est l'œuvre d'une seule personne, généralement. Mais le livre, c'est une œuvre collective. C'est-à-dire que il y a le texte, mais il y a le retravail avec le texte, il y a le correcteur, il y a la personne qui fait la maquette, il y a l'illustration, il y a les gens qui vont vendre, il y a les libraires. Donc tous contribuent à faire le livre. Et en fait, il y a des auteurs qui font des très bons textes, mais on sait que dans telle maison, le texte fera un livre meilleur à la fin. Et parfois, par des concours de circonstances, ils se retrouvent pas dans la bonne maison, ou parfois on se dit ils sont enfin dans la bonne maison. C'est un peu abstrait comme manière de présenter les choses.
Je comprends ce que tu veux dire. Après, par rapport au travail qu'il y a autour du livre, j'avais envie que tu nous parles des maquettes, justement. C'est un côté technique, mais je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui, forcément, au premier coup d'œil, sont attirés par les maquettes et les couvertures des livres. Mmh. Et dans ton édition, on sent qu'il y a un fil directeur. Est-ce que tu avais décidé que tu travaillerais sur le même style de maquette à chaque fois? Tu travailles avec une personne en particulier?
Alors, on travaille depuis le début avec la même personne qui s'appelle Elena Vieillard, qui est une graphiste française, qui, alors que je créais la maison d'édition, elle était en école d'art. Elle sortait d'une école d'art, elle envoie son CV un peu partout. Mmh. Et je repère dans son CV quelque chose de très particulier, c'est qu'elle a fait la campagne d'affichage du Front de Gauche en 2010 pour la région parisienne. Et indépendamment de ce qu'on pense politiquement les uns les autres, ce qui était frappant, c'est que les affiches électorales, dont on va voir beaucoup d'affiches ces jours-ci, très souvent dans les affiches électorales, on voit le portrait de la candidate ou du candidat, et c'est généralement très laid. Enfin, c'est pas un jugement sur leur beauté, ça fait des propositions graphiques assez laides. Et en 2010, les affiches du Front de Gauche pour la région parisienne, c'était des affiches sans portrait. C'était des affiches très graphiques, sans visage humain, et qui étaient très réussies. Et je me suis dit, c'est frappant, c'est que dans l'édition, on a oublié que presque tous les grands auteurs de maquettes de livres, de couvertures de livres, venaient du milieu de l'affiche. Et un grand moment de la couverture de livres, c'est les années 20 en Allemagne, les années 1920 en Allemagne, qui étaient des années aussi d'effervescence de l'affiche. Et donc j'ai repéré Elena, on a commencé à travailler ensemble, mais on a eu plusieurs périodes graphiques, et c'est avec Une bouche sans personne, le premier roman de Gilles, qui est là, qu'on a mis en place cette nouvelle maquette. Et il y a quelque chose qui s'est passé en librairie. C'est-à-dire que quand vous voyez un livre en librairie, si vous connaissez ni la maison d'édition, ni l'auteur, ni le sujet, la seule chose que vous allez voir, c'est la couverture. Et après, le coup de cœur de la libraire. Qui va...
Et ça attire, ça attire vraiment. Donc, il y a Une bouche sans personne, Des mirages plein les poches, Un funambule sur le sable. Et il y a un côté très graphique et on reconnaît la maison d'édition, en fait. Et je trouve ça important parce que, comme tu dis, c'est le premier coup de cœur, en fait, c'est le coup de cœur visuel. Après, c'est vrai que nous, en tant que libraire, derrière, on en parle. Moi, quand j'ai lu Une bouche sans personne, c'est parce que je rencontrais Gilles et que du coup, je le lis, je ne le connaissais pas du tout. Et quand tu m'as envoyé le livre, je me suis dit, ouais, la couve, elle est jolie. Et c'est chouette de voir aussi le suivi graphique. C'est important aussi.
Et sur le détail, c'est qu'au début, il a fallu un petit temps pour imposer ces couvertures parce que c'est des couvertures qui prennent des codes graphiques qui viennent à la fois de l'affiche et de la littérature jeunesse. Et jusqu'à une époque récente, pour beaucoup de lecteurs, lectrices et pour certains libraires, c'était des codes qui ne devaient pas être utilisés pour la littérature adulte. Et un jour, il y a une bascule qui s'est faite. Alors, Elena était un peu pionnière là-dessus. Et maintenant, si, après la rencontre, si vous allez fureter dans les rayonnages, vous vous rendrez compte que les aplats de couleurs, les formes géométriques, c'est presque devenu dominant, en fait. Et une inversion qui s'est faite. Et maintenant, les deux styles dominants, c'est soit les aplats graphiques avec des couleurs assez vives, des contrastes assez forts, ou ça va être la photo retravaillée. La photo retravaillée, en fait, vous verrez, c'est souvent utilisé par les grandes maisons classiques, parce que c'est souvent la photo retravaillée qui est sur une surcouverture, et ça permet de retirer la surcouverture et de retrouver une couverture dont le principe peut avoir 100 ans. Ce qui, c'est aussi parce que moi, j'aimerais bien avoir une couverture qui a 100 ans, mais techniquement, ça va être compliqué, quoi. Sauf à attendre encore... 88 ans, quoi.
Voilà. Ça
va prendre du temps. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est ça.
Et bah, du coup, je vais passer sur les romans de Gilles. Parce que sinon, après, on va pas. Je regarde. C'est bon. Donc, on a parlé un peu, du coup, de votre rencontre et du lien que vous aviez tous les deux. Donc ça, c'est super que ça, vous soyez là tous les deux, du coup, pour en parler. Gilles, donc, tu avais écrit des textes pour les éditions Antidata, ouais, à la base, et un roman à quatre mains en 2015, le roman de Bolaño.
Oui, c'est ça.
Et en 2016, c'est la sortie donc, du premier roman solo, Une bouche sans personne, chez David.
Chez David, ouais.
Voilà, la rencontre, le coup de foudre...
En fait, la rencontre, elle s'est faite autour d'un de ses textes. Donc moi, j'étais à ce moment-là aux éditions du Sonneur, où je venais de publier donc, le roman de Bolaño, qui est un roman écrit à quatre mains. Et j'étais sur le salon du livre, et j'avais lu un texte de François Zabowski, qui s'appelle « Il n'y a pas de sparadrap pour les blessures de cœur ».
Du cœur.
Du cœur. Ouais, j'ai jamais su si c'était de cœur ou du cœur. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce texte. Et en passant devant à l'époque, je fumais, donc je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'extérieur et l'endroit où je me trouvais. Et donc, à un moment, je passe devant le stand de David, et on s'était croisés peut-être une ou deux fois sur les salons, mais on se connaissait, je pense qu'on se fouvoyait même peut-être à l'époque. Et donc, je lui dis que j'ai lu un de ses livres que j'ai beaucoup aimé. Et puis, comme David est assez bavard et que moi aussi je peux être assez bavard, on a parlé pendant plus d'une heure sur de littérature, de ce qu'on aimait lire, en plus, tu avais lu le roman de Bolaño, toi, je crois, déjà à ce moment-là.
Ah, oui.
Et donc, et c'est de cette conversation que je me suis dit que j'avais un texte qui me tenait vraiment à cœur, mais qui était pas complètement abouti. D'abord parce que un des personnages principaux est inspiré d'un personnage de le grand-père du roman est inspiré par mon propre grand-père, voilà, pour faire ça. Et donc, il me manquait du recul. Mais je l'avais écrit, je l'avais réécrit déjà, ce livre. Mais il y avait quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas complètement. Mais de cette conversation avec David, je me suis pas dit tout de suite, c'est plusieurs jours après, je me suis dit, mais s'il y a bien une personne qui peut être intéressée par ce roman-là, c'est lui. Et donc, je lui ai envoyé en lui disant que le texte n'était pas abouti, mais qu'il y avait quelque chose. En tout cas, la matière... À mon avis, était là et qu'il saurait s'il a envie d'accompagner ce texte ou d'avoir un avis éditorial, de me dire, mais en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a eu donc une réunion, la première réunion, c'est que donc, je suis venu dans son bureau, il m'a dit, raconte-moi ton roman. Donc j'ai raconté mon roman. Et il m'a dit, mais en fait, ce que tu m'as raconté, ce que tu as écrit, c'est pas exactement pareil, parce que tu m'as donné à l'oral des éléments qui sont pas dans ton livre.
Ah oui.
Voilà. Et donc, voilà, on en a parlé, j'ai réécrit, et c'est comme ça que...
Donc, Une bouche sans personne, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme qui cache ses blessures derrière une écharpe. Et c'est une histoire d'amitié avant tout. C'est cet homme qui retrouve ses amis au café jour après jour. Il est comptable à la base, c'est ça?
Ouais.
Et il va se rendre compte que ses amis se confient beaucoup à lui, mais que lui, il n'y a pas de retour, il a du mal à s'exprimer. Et on va suivre son quotidien et son imaginaire. Il y a un côté...
Ah, oui, l'imaginaire apparaît à partir du moment où il accepte de... Personne... Enfin, tout le monde sait qu'il est en partie défiguré, mais personne n'a vu sa blessure et personne ne sait ce qui lui est arrivé.
Donc, on retrouve dans tes romans un côté fantastique, on pourrait dire, imaginaire. Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt à chaque lecteur de se faire une idée aussi.
Alors, c'est peut-être mon côté un peu snob, mais le fantastique, ça me, à chaque fois, ça me...
Ouais.
Parce que je trouve que la littérature, c'est un vrai champ de liberté. Mmh. Donc, après, selon notre histoire ou nos lectures, on va appeler ça du surréalisme, du réalisme magique, de la fantaisie ou du fantastique. Mmh. Personnellement, je cherche pas trop moi à le définir.
Non, parce que le problème, c'est que je sais aussi qu'en disant fantastique, on cible une catégorie qui ne colle pas forcément à ton style. Je pense qu'il y a de l'imaginaire, il y a de l'imagination. Beaucoup d'imagination et t'as raison, c'est pas... Moi, je peux pas non plus les faire rentrer dans un style, les romans. Parce que c'est du réalisme, il y a un côté réaliste, critique sociale, des choses assez fortes, l'amitié, la famille, la différence avec un funambule sur le sable. Mais tu laisses parler ton imaginaire.
Toi, je me sens assez libre.
Voilà. Après, je sais aussi que tu... T'aimes pas forcément parler de tes inspirations parce que t'essayes de créer...
Alors non, j'ai beaucoup de choses qui m'inspirent.
Ouais.
Parce que je...
Les auteurs qui t'ont inspiré, tu te détaches d'eux aussi.
Je pense que pour écrire, oui, il faut se détacher de ses inspirations et de ses références parce que sinon on est dans l'imitation. Et c'est quelque chose qui me fait... Je ne dis pas que ça me fait peur parce que j'ai réussi à dépasser ça. Mais quand j'ai commencé à écrire, C'est pour ça que mes premiers romans ne seront jamais publiés. Et j'espère qu'à ma mort, personne aura la mauvaise idée de les ressortir.
Alors, ma recommandation, c'est de les détruire de ton vivant. Parce que Franz Kafka avait demandé à ce qu'il soit détruit après sa mort, et il a bien été... on l'a pas trop écouté là-dessus.
Moi, je pense savoir où ils sont. Donc,
D'accord.
Oui, mais j'ai un attachement quand même. Mais justement, parce qu'ils étaient peut-être dans l'imitation des écrivains que je lisais à cette époque-là. Et puis un jour, j'ai pris conscience que pour avoir une voix qui m'intéresse, avec laquelle j'ai envie de m'exprimer, il fallait que je m'affranchisse de toutes ces inspirations. Et puis, d'autant que mes inspirations... en fait, on m'a toujours beaucoup questionné sur mes inspirations littéraires, alors que mes inspirations, elles sont pas que littéraires, et même majoritairement pas littéraires, en fait. Ouais. Disons qu'il y a des réalisateurs qui m'inspirent plus, il y a des peintres qui m'inspirent plus,
des
il y a
musiciens,
des musiciens beaucoup. Surtout. La musique m'accompagne plus que la littérature.
Alors, il faut savoir que la musique est omniprésente dans tes romans, quand même.
Ouais.
Et une bonne playlist. Moi, ça me fait plaisir. À chaque fois, t'as presque envie de lire en écoutant les chansons. C'est très rock, donc on retrouve souvent les Beatles.
Ouais. C'est très 60s, 70s.
Ouais, voilà. Il y a une ambiance, mais t'as été batteur dans des groupes, c'est ça?
Ouais.
Donc forcément, tu sais de quoi tu parles. Même quand on lit Requiem pour une Apache, il y a ce personnage, le narrateur est un ancien chanteur.
Un ancien chanteur.
Qui a fait un seul tube. Un seul tube.
Qui a fait un seul tube et qui a été ringardisé.
Voilà.
C'est comme... Alors dans le livre, je le compare un peu à Christophe qui n'a pas fait qu'un seul tube, qui a été longtemps cantonné à Aline, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, ou à, je sais pas, ça s'appelle Patrick Juvet ou des gens comme ça qui ont fait un tube et qui après ont été un petit peu moqués. Et moi j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui sont ringardisés ou qui sont moqueurs, qui ont rien demandé. C'est l'histoire de ce personnage-là, ce qu'il fait, c'est il va chanter devant des gens et les gens sont comme des dingues et ils dansent et ils s'aiment et il y a des couples qui se forment et ils passent une super soirée. Et puis d'un seul coup, alors que c'est ce qu'il faisait, d'un seul coup, les gens commencent à le siffler parce qu'il y a des comiques qui ont commencé à le parodier, en fait, on se rend compte que sa chanson, les gens dansent dessus, mais c'est quand même une chanson un peu facile. Et lui, il sait pas comment réagir par rapport à ça. Donc, il sourit par politesse quand on se moque de lui.
Ouais, il prend un peu à la rigolade au début devient vexant, quoi.
Parce qu'on est obligé de prendre à la rigolade de toute façon. À partir du moment où on est moqué, si on ne prend pas à la rigolade, on est doublement emmerdant, quoi, pour être simple. Quoi. C'est-à-dire que non seulement on se moque de lui, mais en plus on n'a pas d'humour. C'est quand même un peu...
Oui, il peut pas se le permettre. Et justement, tu as ce personnage-là et un florilège de personnages, parce qu'entre Une bouche sans personne, Requiem pour une Apache ou Un funambule sur le sable, et même dans tes nouvelles, Les mirages pleins les poches, il y a plein de personnages un peu comme ça. Et j'avais noté une citation de Nicolas Houguet, qui est un ami à toi, ouais. Je crois, qui a écrit aussi. Donc il avait parlé de ton roman donc Requiem pour une Apache dans le mag de la santé, le magazine de la santé, et il a dit Gilles Marchand est un auteur qui se met toujours du côté des timides, de ceux qu'on n'entend pas. C'est un livre, donc Requiem pour une Apache, qui donne envie de vivre et de regarder son prochain pour de vrai. C'est beau. Ouais. J'ai trouvé ça beau et tellement vrai. Requiem pour une Apache, c'est la rébellion de gens hors norme, mais la norme, bon, qu'est-ce que c'est l'interrogation, qu'est-ce qu'est la norme? Un peu mis à la marge de la société. Parce qu'on est trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre.
Oui, alors en fait, ce livre, il est vraiment né du roman précédent de Un funambule sur le sable. C'est-à-dire que j'étais en tournée pour présenter Un funambule sur le sable. Et puis, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, c'était dans une librairie à Lyon. C'était animé, c'était une rencontre en librairie, mais à la radio. Enfin, c'était sur une radio et... Donc c'était le journaliste qui m'interviewait, mais en public. Et puis, on parle du livre, c'est un livre sur la différence. C'est l'histoire de... Alors, l'histoire en deux mots, c'est l'histoire d'un enfant qui naît avec un violon à l'intérieur du crâne. Mmh. Et c'est un vrai violon, et c'est un vrai enfant. Mmh. Et pour moi, c'était une manière de parler du handicap, de la différence, en inventant un handicap qui n'existe pas, de manière à écrire un livre le plus universel
tout
possible.
Le monde peut
C'est-à-dire se retrouver. Que ce soit, et que, en fait, ce gamin qui aurait... pu être une espèce de... ça aurait pu être le début d'un conte avec un enfant incroyable qui a un don incroyable, qui va remplir toutes les salles de concert, qui va faire de la musique, etc. Et en fait, on se rend compte que non, parce que, alors, pour le coup, si je dois définir ce style-là, ça, pour le coup, c'est du réalisme magique. C'est-à-dire que si aujourd'hui un enfant naît avec un violon dans la tête, il va pas remplir le Carnegie Hall, il va être déjà, il va rester à l'hôpital longtemps parce qu'on va vouloir comprendre ce qui se passe, on va vouloir comprendre, voir si c'est dangereux pour lui, si c'est dangereux pour sa santé. Quand il va être scolarisé, ça va poser un problème à plusieurs niveaux. D'abord parce que le recteur va dire, ah oui, mais là c'est un truc, on sait pas, même vous pouvez pas expliquer ça, est-ce que c'est pas dangereux pour la classe?
Les parents qui se demandent si c'est pas dangereux pour leurs enfants.
Ouais, et puis pour le niveau de la classe quand même, c'est un enfant, et puis comme le violon fait de la musique,
ça
va peut-être déconcentrer. Moi, mon fils, j'aimerais bien qu'il ait une bonne scolarité, et donc je veux bien qu'il soit intégré, mais plutôt dans une autre classe, si on faisait une classe avec des bons, voilà. Et donc je raconte, enfin, je présente ce livre-là. Et donc j'explique pourquoi j'ai voulu parler de la différence en inventant une différence, et j'ai dit que de toute façon, aujourd'hui, dès qu'on est à chaque différence, correspond une insulte. La langue française est assez riche dans ce domaine-là, c'est que que ce soit une couleur de peau, que ce soit un problème physique, que ce soit une orientation sexuelle, que ce soit même un genre, tout simplement, il y a une insulte qui correspond. Et donc, c'est dans la conversation que j'explique ça, et le présentateur, à ce moment-là, il se tourne, il dit « Oui, alors est-ce que vous avez des exemples ?» Et là, il y a
tout le monde,
5 minutes d'insultes totales.
L'émission, toutes les bandes ont été brûlées après. Hein,
et alors, à ce moment-là, j'ai pris conscience, justement, que dans mes livres, il n'y a jamais de gros mots. Et ce qui m'étonnait, pas ce qui m'étonnait, mais moi dans ma vie, moi j'aime bien les gros mots, j'essaie de ne pas en abuser les enfants, donc j'essaie de ne pas trop en abuser, mais je leur ai dit que dans certaines circonstances, on avait le droit, quand on se cogne un pied par exemple, quand on fait du rock, et c'est pas grave, c'est deux circonstances, mais qu'il ne fallait pas que ça devienne quelque chose de trop quotidien et courant, il ne fallait pas que ça devienne des tics de langage. Et donc, je me dis, mais c'est bizarre que dans mes livres, et que de temps en temps, quand il y en a, quand je me relis, je les enlève parce que ben, ça ne marche pas, en fait, dans mes livres. Un gros mot, c'est pas dans ma manière d'écrire, ça ne fonctionnait pas. Et donc, je suis en promo pour Un funambule sur le sable. Il y a cette rencontre-là, et puis une autre rencontre où il y a quelqu'un qui me parle de la poésie de ce personnage et qui dit oui, mais la différence en plus, ça peut être tellement source de poésie, etc. Et là, moi je me dis, ben, c'est quand même une souffrance que je
ouais,
raconte.
Ouais.
Et je me suis dit que j'avais, dans ce livre-là, raconté une partie de cette question de la différence, mais qu'il me manquait la partie où, pour parler clairement, on se prend une baffe dans la gueule.
Ouais.
Quoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit la
ouais,
première page de... Je vais peut-être la lire, en fait.
Vas-y.
La première page de ce livre-là, ce qui est la... En général, quand on écrit une première page, à la fin, soit on l'enlève, soit c'est plus du tout la première page.
Ah oui, mais... j'allais lire... J'avais trouvé un autre moment, mais oui, t'as raison, le début, c'est...
Ouais.
Mais ça parle plus après des personnages principaux. Mais vas-y.
Donc, et là, dans cette page-là, il y a... Alors, en fait, il y a deux passages... ou d'insultes. Mais ça, c'était vraiment ma boussole, parce que je me suis dit, dans ce livre-là, il va falloir ne pas avoir peur des mots et raconter ce qui se passe. Donc je vous lis le début du livre. Donc, il aurait fallu commencer par le début, mais le début, on l'a oublié. Ça a démarré bien avant nous et bien avant elle. Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de Jolene non plus. On la présente aujourd'hui comme la meneuse d'une troupe d'insurgés. Plutôt que d'insurgés, ça tenait davantage d'une cour des miracles contemporaine, accueillant les trop maigres, les trop gros, les trop petits ou trop grands, les trop ceci ou trop cela, les roux, les arabes, les noirs et les chinois. Mais cette histoire n'aurait certainement jamais existé si les termes utilisés avaient été ceux-là. Parce que ce n'est pas les chinois, les arabes ou les trop gros qu'on les appelait. Dans la réalité, elle était entourée par les Shintok, les Bunyul et les Bamboula, les youpins, les grottas et les boudins, les sacs d'os, les poils de carottes, les nabos et les avortons, les salopes et les pétasses, les gwins et les pédés, les garçons manqués, les efféminés, les ploucs et les bouseux, les mongoliens, les débiles, les crânes d'œufs et les queudras, les rastaquaires, les bâtards, les anciens tolards, les nouveaux crevards et les néo-clochards, les boiteux, les bigleux, les neuneux, les peureux, les pas sérieux, les vieux, ceux qu'on ne veut plus, les rebuts de la société, les inutiles. Ceux qui n'ont plus rien à nous apprendre, qu'on n'écoute plus, qu'on ne veut plus entendre. Les pas comme il faut, les mal élevés, les malhabiles, les mal finis, les mal foutus, les malades, les bancals, les sourdingues, les doudingues et les baltringues. Tous ceux qui prennent trop de place, qui ne rapportent pas assez d'argent, qui ne sont pas faits du bon bois, pas du bon moule, qui n'ont pas la taille standard. Entrée des artistes, sortie à l'hospice et sans un bruit. On ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir, on veut vous oublier, surtout... vous oubliez. Faire semblant que vous n'existez pas, que vous n'avez jamais existé, que vous n'existerez jamais. Cette drôle de troupe avait fini par rassembler tous ceux qui avaient, un jour ou l'autre, été insultés pour ce qu'ils représentaient. Jolene leur a donné une voix, la sienne.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc, tu as pris le parti de dire, bon, on va dire les choses.
Ouais, je me suis dit, comme ça, c'est fait.
Et c'est vrai qu'il y a une certaine douceur dans Un funambule sur le sable qu'on ne retrouve pas dans Requiem pour une Apache.
On la retrouve différemment, mais...
Ah oui, si, il y en a une, parce que du coup, ces gens se retrouvent donc dans un hôtel miteux et vont mener leur petite révolution et former une famille. Donc, si, il y a un côté doux, mais c'est très poignant aussi. Il y a des côtés beaucoup plus poignants par rapport à ces personnages.
Je l'ai
vu comme ça. Alors, mon coup de cœur, clairement, c'est Un funambule sur le sable, mais parce que justement, le handicap que tu as créé, et c'est ce que tu voulais faire, c'est qu'il parle à tout le monde. Donc, en lisant ce livre, je me suis dit que tous ceux qui se sentaient peut-être un peu différents ou à la marge, dans cette société ou ce monde-là, pouvait se retrouver.
Ouais, c'est le livre pour lequel j'ai reçu le plus de courriers.
Ouais.
J'ai même eu... c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que je parlais de l'autisme.
Oui, ça m'a fait penser au début aussi, mais après j'ai compris que c'était plus large.
Parce que je parle aussi de ça.
Ouais.
Mais je parle de la liste que je viens de dire. Oui. C'est aussi pour ça que j'ai écrit, que j'ai écrit ce livre-là. Donc, mais c'est vrai que j'ai reçu des courriers assez... de gens qui avaient été un peu ostracisés.
Ah ouais.
Des histoires assez, assez dures et vraiment de... je vais pas citer... je vais juste prendre un exemple qui est assez loin justement de mon roman pour que je puisse en parler. C'est l'histoire d'une dame qui avait deux enfants, un fils et une fille, et le fils s'était suicidé. Et c'était dans un petit village, Et du coup, sa fille n'était plus invitée aux anniversaires et elle ne pouvait plus inviter parce qu'on n'allait pas chez la suicidée. Et donc, elle a vécu ce double drame, la perte de son frère. Et enfin, c'est la mère, hein, qui m'a raconté ça. Et en plus, sa fille, qui n'avait rien demandé, qui était une victime, qui était en situation de détresse, il y avait une espèce de superstition qui fait qu'on ne savait pas trop. Et ça partait pas toujours... c'était pas forcément un mauvais pressentiment, c'est que les gens avaient peur de ne pas savoir quoi lui dire, avaient peur de... Il y avait ce côté, on va pas chez la suicidée parce que ces gens-là vont pas très bien, je voudrais pas qu'ils mettent des mauvaises idées. Et en plus, avec... J'ai un ami, quand son fils est devenu diabétique, il a plus été invité aux anniversaires.
Ouais, il y a une espèce de peur.
Parce que, voilà, alors là, c'est parce que les gens avaient peur de faire une bêtise, ils savaient pas trop. Alors que, moi, j'en ai parlé très clairement quand je l'ai invité à l'anniversaire de mon fils. Je lui ai dit, mais, enfin, fais-moi un cours, je vais être un peu lourd, je sais pas, mais est-ce que, par exemple, enfin, c'est des trucs tout bêtes, est-ce que je peux avoir quelques bonbons et je fais attention à pas lui en donner, ou est-ce que j'en mets pas du tout, c'est plus simple. Enfin, j'ai posé des questions très franchement qui permettent de...
Et c'est le problème de la peur de la différence, en fait.
Dès
qu'il y a quelque chose d'un peu différent, les gens ont peur, et certains vont être blessants, d'autres vont pas oser dire quoi que ce soit, donc vont paraître insensibles, et c'est ce qu'on ressent. Et le personnage du funambule sur le sable l'explique très bien, c'est que toute sa vie, attention, faut pas que tu joues au foot, faut pas que tu fasses ça, parce que si tu te prends le ballon dans la tête, on sait pas comment ton violon va réagir. S'il y a une corde qui pète, tu peux peut-être mourir. Et toute sa vie, on fait attention à lui comme s'il était en verre, en fait. Et lui, il a juste envie d'être normal, en fait. Il a envie d'affronter même des fois ce danger. Et après, quand il grandit, d'ailleurs, il se met des petits défis. Enfin, il arrive à s'émanciper quand même et à faire sa vie, mais... Et c'est vrai que les gens face à la différence voilà, sont un peu frileux ou ne savent pas quoi dire. Et oui. C'est ça.
Ce texte, en fait, a une vie très longue. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui le découvrent après, parce que dans l'édition, c'est toujours difficile de faire vivre sur le long terme des textes. C'est-à-dire que dans notre éducation, on lit des classiques, mais on ne se rend pas compte que les classiques n'étaient pas des classiques initialement et que c'est très très dur de faire vivre un texte plusieurs années. Et c'est le travail qu'on essaie de faire. Et le funambule a une vie assez longue aussi parce qu'effectivement, il a participé à la conversation collective, à sa mesure, mais il y a participé. Et c'est un aspect important de la conversation collective. Et ce que j'apprécie dans les textes des Forges, mais aussi particulièrement chez Gilles, c'est que c'est des textes qui... parle de la conversation collective, mais toujours de manière implicite. Ça reste d'abord de la fiction, ça reste d'abord un plaisir de lecture, mais il y a toujours quelque chose qui passe, une forme d'élégance de dire on va faire passer quelque chose, mais ce qui est important, c'est d'abord la littérature, et après le message.
Je détesterais me poser en donneur de leçons. J'écris à la première personne, donc je suis en empathie totale avec mon narrateur, mais qui est très loin de moi. Mais voilà, je pose des questions. Quand je démarre le film, je sais comment ça va se terminer, mais quand je le démarre, je ne me rends pas compte de tous les enjeux que ça présente. Et en fait, en me mettant à sa place, c'est là que je me rends compte qu'en fait, dans la vie, quand il va devoir chercher un travail, quand la moindre attestation, le moindre... ce qui va... la moindre avancée va lui demander beaucoup plus d'efforts que pour n'importe qui.
Et tu en parlais dans un interview quand tu es allé au livre sur la place à Nancy. Tu disais que donc tu avais envie dans ce livre de parler de la différence, de voir comment vivre dans une société quand on n'est pas parfaitement calibré pour vivre dans cette société-là. Quels sont les moments où on nous renvoie au visage cette différence? Ça parle beaucoup du regard des autres, en fait. Et pourquoi un don peut être vu comme un signe de marginalité? Et en fait, c'est exactement ce dont traite le livre, et c'est pour ça qu'on se retrouve tous, parce que ça peut être autant, on peut voir ça comme un vrai handicap, comme une petite différence, comme une originalité, parce que son violon fait qu'il arrive à discuter avec les oiseaux, ce petit garçon. Et lui ne se pose pas de questions, puisque pour lui, il est né comme ça, donc il se rend compte qu'avec les bruits de son violon, les oiseaux le comprennent. Donc il va discuter parce que pour lui c'est normal, et c'est le regard des autres qui fait qu'après il est gêné, ou que ses parents sont gênés, ou que sa petite amie plus tard va être gênée. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à un moment, le regard de l'autre...
Et les parents de sa petite amie, parce qu'ils
les
vont
parents
dire...
vont être outrés, enfin vont,
ben,
vont
que, dire qu'il est complètement quelle est la vie que vous allez pouvoir offrir à ma fille.
Oui, hein. c'est ça.
Ouais, et quand j'étais enfant, on me lisait des vies de saints. J'ai été étonné parce que la vie de saint, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous lisez de manière très neutre les vies de saints, il y en a beaucoup... C'était vraiment... Ils faisaient n'importe quoi, vraiment. Mmh. Et c'est la construction sociale qui en fait des saints.
Oui.
Mais moi, par exemple, Saint David... Saint David, ce n'est pas du tout le roi des Juifs. C'est un saint byzantin du XIIe siècle qui vivait dans une cabane dans la plaine de Byzance. Et le jour où les armées de l'islam arrivent, il dit « Moi, je ne partirai pas ». Et donc, y a un siège de 9 mois, et finalement, l'armée ennemie s'en va, il n'y a plus rien dans la plaine, il n'y a plus la cabane. Et les gens tombent en pamoison et disent « c'est Dieu qui l'a sauvé et qui l'a emmené au ciel ». Et je pense que si on regarde ce récit sans savoir qu'il y a un contexte religieux, on dit « en fait, ils ont brûlé sa maison, il est mort dedans voilà. ». Et il était en fait complètement fou. Mais sur la question de la construction sociale, je sais que c'était aussi une des rencontres qu'on avait eues, une rencontre avec Nicolas Houguet, l'écrivain, qui est porteur d'un handicap, et qui avait attiré mon attention, je ne sais pas s'il avait eu cette discussion avec toi, sur le fait que le handicap, il est toujours double. C'est-à-dire c'est une caractéristique qui est neutre, qui est source de souffrance, mais c'est la construction sociale qui redouble le handicap, et que parfois, la construction sociale va amplifier de manière démesurée le handicap. Et alors, en plus, ce que j'aime bien relire les textes des Forges, et c'est parce que je pense que c'est des bons textes, et donc on peut les relire année après année. Et récemment, j'en parlais avec une spécialiste du monde victorien, donc le 19e siècle britannique, qui disait qu'on ne se rend pas compte que la notion de norme, c'est une construction du 19e siècle en Angleterre. C'est le moment où l'être humain se dit « je vais contrôler le monde et je vais tout mesurer et créer une norme ». Et quand on a créé la norme, qui est très très réduite, à un nombre très limité d'individus, de certaines tailles, certaines couleurs, certains poids et tout ça, tous les autres sont considérés comme déficients. Et à la fin, c'est une grande partie de l'humanité qui est déficiente. Et en fait, la norme n'était pas la norme jusqu'en 1860. Avant, que ce soit dans la littérature, dans la construction politique, on était dans une société qui est, avec tous ses défauts, qui était plus inclusive en fait que la société actuelle sur ces aspects-là. Voilà. Mais donc, c'est un très bon texte, et on se dit que dans 150 ans, il sera là, comme témoignage du fait qu'on avait un rapport pathologique à la norme.
Voilà. J'espère qu'il y aura peut-être moins de normes, mais c'est vrai que du coup, c'est un texte qui est très touchant. Et celui de Nicolas Houguet, du coup, il m'avait fait le même effet. Bon, là, il raconte son histoire.
C'est un témoignage. L'Albatros.
L'Albatros, voilà, de Nicolas Houguet, donc qui est... Nicolas Houguet, il est tétraplégique,
il est dans un fauteuil.
Où il raconte vraiment son témoignage, et c'est un texte vraiment bouleversant, et c'est un peu coup de poing parce qu'on est vraiment là dans la réalité. Mais c'était très chouette aussi, c'est un personnage vraiment adorable. Il faudra que je le fasse venir aussi. Ouais. Voilà, et ben je pense qu'on a fait, ça fait 1 heure.
Mais on peut continuer un petit peu, parce qu'il y a les autres livres
dont on peut parler. Hein, peut, hein, moi je...
Oui, allez-y.
Ok.
Alors, point de détail, dans l'édition française, on n'aime pas beaucoup la nouvelle.
Ah oui.
Parce que la nouvelle, c'est toujours très difficile de donner à un recueil de nouvelles les lecteurs et les lectrices que ce recueil mérite. Et pourtant, c'est toujours étonnant parce que les plus grands écrivains français ont fait de la nouvelle. Mais pour toutes sortes de raisons, on a un peu de mal avec la nouvelle. Et nous, on publie régulièrement de la nouvelle. Et beaucoup de très grands romanciers, y compris des romanciers au sein des Forges, sont des gens qui ont grandi avec la nouvelle, c'est-à-dire qui ont affiné leur art avec la nouvelle. Et je pense aussi au fait que l'art de la nouvelle, c'est l'art, en fait, de raconter un monde entier en quelques pages. Et je pense qu'une des qualités de Gilles Marchand, ou de Charles Yu, l'auteur américain, qu'on publie, qui est le lauréat du National Book Award, et qui est initialement un auteur de nouvelles aussi, c'est que c'est des auteurs qui traitent la nouvelle comme le grand genre, en fait. Et Gilles, tes premières publications, c'est des nouvelles.
Oui,
donc parce que Des mirages pleins les poches, c'est un recueil de nouvelles. Alors que j'ai conseillé pour commencer justement quand on ne connaît pas trop tes écrits parce que j'ai trouvé que ça on voyait ton style voilà, assez bien dans ces nouvelles-là. C'est vrai que c'est moins évident à conseiller, à vendre. Les gens sont plus frileux sur les nouvelles. Et donc ça, c'est un recueil qui s'est construit comment?
Alors, c'est un recueil des textes que j'ai écrits, je crois, si je ne me trompe pas, entre 2012 et 2017.
Ouais.
Et dans des recueils collectifs, souvent des recueils thématiques. Et c'est David qui avait dû tomber sur quelques-unes de ces nouvelles et qui avait trouvé qu'il y avait une vraie cohérence et qui m'avait dit, est-ce que ça te dirait qu'on les réunisse pour en faire un seul livre? Moi, à ce moment-là, je voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit, bah, elles sont publiées, elles existent, pourquoi en faire un livre? Et je les ai relues et je me suis rendu compte qu'effectivement, les unes à côté des autres, il y avait un sens, ça faisait, c'était pas loin de constituer une œuvre à part entière. Et pour que ça constitue une œuvre à part entière, j'ai rajouté un peu de ciment entre les nouvelles, j'ai rajouté une
Il y en a que tu as
introduction.
créé,
Ouais, bon, la première, là, je voulais que le recueil ait un début et une
ouais.
fin. Donc j'ai fait une nouvelle d'ouverture et une nouvelle de fin. Et je trouvais que les Beatles manquaient un peu dans ce texte, donc j'ai rajouté une nouvelle avec les Beatles.
C'est très
Voilà.
bien.
Alors les Beatles apparaissent dans tous mes livres.
Ouais.
Et dans mon prochain livre, pour la première fois, je vais changer un peu de
Ah.
période. Et les Beatles n'étaient pas nés.
D'accord.
Donc j'ai trouvé une astuce.
J'adore.
Bah, dis-nous.
Ouais,
Bah, en
c'est
fait,
bien.
il y a un personnage qui va s'appeler, ça se passe en France, qui va s'appeler Paul Macaré. Un autre qui va s'appeler Jean Lannone, un autre Richard L'Étoile et le quatrième Georges Hérisson.
Ah,
Voilà.
très bien. Ça va être sympa.
Ouais.
On a hâte de voir ça.
Et ce recueil avait gagné le prix du meilleur recueil de nouvelles de la Société des gens de lettres.
D'accord.
Voilà.
Okay. Mais c'est vrai que c'est agréable, on redécouvre. Moi, c'est moi-même, je suis pas habituée à lire des nouvelles et c'est pas ce que j'ai préféré dans tout ce que tu as écrit, mais n'empêche qu'il y a certaines nouvelles où tu as vraiment réussi à faire naître l'émotion en quelques lignes. Et
Ah
c'est ce
ouais,
qu'on
alors il y en a une
recherche.
parce qu'il y a André Vilms qui est mort la semaine, il y a, oui, la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Et donc c'est une histoire de. On parle des inspirations, j'aime beaucoup le cinéma d'Aki Kaurismäki. Et André Vilms qui est un de ses grands comédiens fétiches. Et donc j'avais imaginé. Et ça, c'est arrivé à la fin, cette chute, ces deux demi-truites.
Ouais, c'est ça. Je l'ai noté,
Et
je l'ai
donc c'est
noté.
l'histoire de gamins qui s'identifient tous à un super-héros. Et alors je me souviens plus bien, il y en a un qui s'identifie à Superman et
Ouais,
ils sont
c'est
trois,
ça.
et l'autre c'est Batman, et le troisième il sait pas trop, il n'arrive pas à trouver son super-héros. Il n'y a aucun super-héros qui le vénère et qui font vraiment briller ses yeux. Et puis ce gamin-là, il y a son père qui est un peu violent, enfin qui est violent avec
Ah,
sa mère, il boxe pas que sur un ring. Et puis un jour, ça se passe mal et lui-même se prend un coup. Et puis ils sont obligés d'aller à l'hôpital pour vérifier, pour mettre un plâtre. Et en sortant de l'hôpital, ils vont au cinéma
avec sa maman.
et avec sa maman,
Ouais.
donc juste lui et sa mère. Et ils vont dans ce, ils arrivent, ils n'ont pas trop le choix. Ils vont voir La vie de bohème de Kaurismäki, et qui est un film en noir et blanc. Alors au début, ils se disent, oh, c'était pas trop
Ouais,
l'idée.
lui, il était plus
Lui, il
super-héros.
aurait voulu voir un film de super-héros. Et puis il voit dans ce film-là, c'est toute une bande qui pourrait ressembler à la bande de Requiem pour une Apache, une bande de bras cassés, de gens un petit peu perdus, un petit peu pauvres. Et ce qui l'impressionne, c'est que le personnage interprété par André Vilms, on sent qu'il n'a pas, il a pas un radis, mais il est toujours assez
Super
élégant
bien avec.
et que sa veste est toute râpée, elle est toute, mais il continue à porter une cravate et il continue à être le plus digne possible. Et il voit dans les yeux de sa mère, il voit que sa mère, au cours du film, elle sourit. Et il se dit, mais en fait, c'est Superman, Batman, ils font jamais sourire à ma mère.
Non.
Alors que André Vilms, il fait sourire. Il arrive, hein, il dit, et donc il arrive, le lendemain, dans un cours de récréation, il prend une vieille veste de son père, une vieille cravate, et il dit à ses copains, bah, j'ai trouvé mon super-héros. Il dit, mais t'es qui? On ne reconnaît pas. Il
Le
dit,
croque-mort dans Lucky Luke.
vas-y, bah, dis la fin, du coup.
Ouais, bah il a donc il dit arrivé à l'école, je me postais contre un arbre de la cour de récréation. Le bas de ma veste trop grand, battu par le vent. Thomas et Nicolas s'approchèrent de moi. C'est quoi cette tenue? Ma tenue de super-héros. Le croque-mort dans Lucky Luke? Non, mieux. Ils réfléchirent, se grattèrent le menton, le crâne, un avant-bras et un mollet, firent mine de réfléchir encore, d'être à deux doigts de toucher au but pour finalement renoncer. Et c'est qui comme super-héros? André Vims. Super André Vims? Non, juste André Vims.
Voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'une libraire avec comme client André Vims et lui a offert cette nouvelle, c'était il y a 4-5 ans. Et un jour, je vais dans la librairie et je le croise. Et on était super... Alors lui était très ému. Et il avait offert à son ex-femme pour lui dire, tu vois, tu vas peut-être quitter, mais je suis un super,
héros.
Et alors on était gênés tous, et c'est l'époque où je fumais, et donc on était tous les deux un peu gênés, parce que moi je l'admirais en tant que comédien, et lui était très touché par ce texte-là. Et du coup, on a parlé foot.
Voilà. Ah oui, oui, logique.
Ouais, bon, c'était... Voilà.
Merci mais ça reste pour cette chute émouvante.
Oui, mais c'est
vraiment une chute.
C'est la pudeur, c'est que
ça s'appelle la réalité. Voilà.
Oui.
Sur ce, bonne soirée. Ouais, non, mais c'est vrai que cette nouvelle était très sympa. Et voilà, encore une fois, moi, c'est encore quelque chose qui m'a émue parce qu'il y a ce côté, le petit garçon qui se rend compte qu'être un super-héros, c'est juste faire rire sourire sa maman et voir ses yeux pétiller. Ça, c'est super émouvant. Donc, on a parlé un peu des livres. Alors, le dernier livre que tu as écrit, c'est un livre à quatre mains.
Ouais. Deuxième livre à quatre mains.
Ouais. Pour de la jeunesse, Le Second Souffle.
Ouais, c'est à partir de 12 ans, je crois, ou 13.
Ils le mettent pas, mais oui, c'est ça. Ouais. Une dizaine d'années, je dirais, pour des bons lecteurs, quand même. Mmh. 12 ans, c'est bien, je pense. Parce qu'il y a un côté vraiment social. Donc, tu l'as écrit avec Jennifer Murzo. Que je ne connaissais pas, en fait, j'ai découvert. Alors, comment ça se passe je suis curieuse de savoir comment ça se passe quand on écrit un roman à quatre mains.
Alors, moi, j'ai deux expériences de quatre mains. Donc, la première, c'était un roman épistolaire, donc c'était assez facile. On avait chacun un personnage, je lui écrivais, il répondait à la lettre, et ainsi de suite. Et là, on avait pas de plan. On avait le point de départ, et chacun connaissait l'histoire de son propre personnage. Mmh. Mais moi, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas la vie, je ne connaissais pas le passé de son personnage.
D'accord.
Si je voulais connaître le passé de son personnage, il fallait que je lui demande dans une lettre.
Parce qu'il y a Ulysse et Ava.
Alors ça, c'était pour le roman de Bolaño. Pour le Second Souffle, là, il y a deux personnages, un garçon, une fille. Mais la différence, c'est que là, on avait fait un plan assez précis, on connaissait ce que l'autre allait raconter. Mais on a chacun notre propre voix. En fait. Moi, j'ai pris la voix du garçon.
D'accord.
Ça m'était plus naturel.
Ouais.
Et elle a pris la voix de la jeune fille.
La lycéenne.
De la lycéenne. Mm.
Donc là, on est sur un livre assez...
Et c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a...
On ne peut pas en dire trop.
Il y a un basculement dans l'histoire, en fait.
Même assez rapidement, on comprend assez rapidement dans l'histoire. Bon, en gros, il y a deux personnages, Ulysse. Donc, il vit dans un centre pour adolescents qui a une santé fragile, il est asthmatique et il est suivi par des scientifiques. Donc, il vit un tas de choses pas drôles.
Et dans un centre, et il n'y a pas d'extérieur.
Voilà.
Il
n'y
a pas de rapport. Pas
de rapport avec l'extérieur.
Le monde autour a été détruit.
Voilà.
Il y a eu ce qu'on appelle l'effondrement. Mmh. Le grand effondrement. Mmh. Et donc, ils n'ont pas le droit d'aller à l'extérieur. Le seul contact avec l'extérieur qu'ils ont, c'est dans un endroit qu'on appelle le ventre, qui est une espèce de bulle quelques arbustes et quelques...
Un peu rabougri,
où ils peuvent aller s'amuser.
Et on leur fait des expériences parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. On essaye de les réadapter à l'air ambiant qui n'est pas très bon pour eux, qui est pollué. Voilà, c'est assez perturbant. Et donc, il va y avoir Ulysse et deux de ses amis, une fille et un garçon, avec qui... ils vont commencer à se dire qu'ils ne pourront sûrement pas passer leur vie ici, que même si c'est dangereux à l'extérieur...
Ouais, ils ont envie d'aller découvrir le monde.
Ils ont envie de découvrir le monde, même s'il n'y a plus d'air
Même si le monde n'existe pas, ils ont envie d'aller s'en rendre compte par eux-mêmes.
Même s'il y a des dangers, notamment la bête, il y a un tas de choses, mais ils ont envie de voir à l'extérieur. Et l'autre histoire, c'est Ava, qui est lycéenne à Paris, et qui, elle, a complètement lâché l'affaire au niveau des cours, parce que, de toute façon, le monde court à sa perte. Elle ne comprend pas pourquoi il y a encore de la pollution, pourquoi on continue de détruire la planète. Elle essaye de militer, elle se rend compte que les petits actes de militantisme vont pas forcément sauver la planète. Donc voilà, elle comprend pas pourquoi elle doit continuer à suivre les cours, aller à l'école. Et donc avec sa meilleure amie, Nour, elles ont des plans, elles vont militer à Paris. Voilà, et il y a une vraie interrogation sur l'état de la planète aujourd'hui et le futur qui pourrait nous attendre.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Et on peut pas, évidemment, il va y avoir un lien entre les deux histoires.
Et on ne peut pas en dire plus, il va y avoir un lien à un moment entre les deux histoires et c'est assez percutant et c'est vraiment génial. Donc, même en tant qu'adulte, hein, franchement, vous pouvez le lire, c'est super bien écrit. Et après, voilà, à partir, je pense, de 12 ans, c'est pas mal, quand même. Peut-être pas plus jeune, mais...
Ouais, 12 ans.
Je dirais même un peu plus tard.
Ah, moi,
12 ans...
Moi, quand je l'ai écrit, je m'attendais à ce que ce soit pour... C'est l'éditeur qui nous a dit que c'était à partir de 12 ans. Et... Ou 13, je sais plus. Mais après, ça dépend vraiment des habitudes
aussi
de lecture des ados.
C'est toujours très dur de mettre un âge aussi sur des livres, parce que les enfants sont tous différents. Il y a des enfants qui lisent déjà des choses... Moi, je pense que les enfants d'une dizaine d'années qui ont lu tous les Harry Potter, je ne vois pas la difficulté de lire ce genre de roman. Donc, voilà. Sauf qu'après, il y a vraiment un raisonnement derrière et plusieurs lectures sont possibles aussi selon l'âge qu'on a quand on lit. Et donc, pourquoi tu as fait le choix de partir sur ce projet, en fait ? Qu'est-ce qui t'a motivé ?
Ce qui m'a motivé, c'est assez simple. C'est que c'était au moment où il y avait des manifestations en France contre la réforme du bac, contre Parcoursup et contre le réchauffement climatique. Et tout ça avait lieu en même temps. Et je me disais, c'est quand même les trois... Enfin, j'ai moins d'avis sur la réforme du bac et Parcoursup. En revanche, le réchauffement climatique, il me semble que c'est quand même quelque chose dont il va falloir s'occuper à un moment ou à un autre. Et je trouvais, à chaque fois que j'en parlais à des ados, qu'ils allaient... pas l'air de complètement les préoccuper, en tout cas qui manquaient d'armes et qui manquaient de munitions, et surtout il y avait beaucoup de résignation. Et dans ce livre là c'est pas justement un livre sur la résignation, c'est vraiment un livre qui a un côté assez pessimiste, mais quand même je pense que on voit que on peut encore sauver le monde, quoi.
Oui, il y a quand même un message quand même d'espoir aussi.
Voilà.
Même si Ava, elle a ce côté un peu bon blasé, on parle de mon avenir.
Oui, mais elle est en lutte. Elle est en lutte
totalement.
Ouais,
elle veut
rébellion. Elle veut mobiliser les gens et elle y croit. Et donc, moi, j'ai fait appel. Je lis un livre de Jennifer Mirzo qui s'appelle La vie dans les bois, et que je trouve qui raconte l'histoire. Elle est très parisienne. Je dis ça sans mépris. Moi, j'habite à Paris, j'adore Paris. Mais donc, elle part une semaine faire du survivalisme dans une forêt. Et on sent bien qu'elle a. Que les arbres qu'elle voit habituellement, c'est au parc Monceau, plus que des arbres sauvages en liberté. Voilà. Mais donc elle décrit ça avec beaucoup d'humour et elle est très militante, pour le coup, Jennifer. Et donc, je me dis, en lisant ce livre, mais il faudrait qu'elle raconte une histoire comme ça, parce qu'elle a une écriture tellement vive et tellement, tellement chouette, avec beaucoup d'humour, ça pourrait marcher. Donc je lui ai dit... et puis voilà, c'est comme ça. Elle me dit, ah, mais moi je ne sais pas écrire pour les ados. Je dis, c'est pas de savoir écrire. Tu sais écrire pour les adultes, tu sais écrire pour les ados.
Ouais.
Et elle m'a dit, mais on pourrait le faire ensemble. Et ouais, c'est comme ça que. C'est comme ça que l'idée de travailler ensemble sur un projet un peu militant est née. Et après, on a cherché quelle serait la porte d'entrée. Voilà. Et donc j'ai entendu. Je peux pas raconter cette histoire parce que sinon j'en dis trop.
Ouais, t'en dis trop sur le.
Alors ça dépend. Est-ce que quelqu'un. Si on est sûr que personne ne le lit, je peux raconter cette
histoire. Non, moi
j'ai. Bon, ok, bon, alors
j'ai. Ouais, non, en plus, même si on comprend assez rapidement, c'est quand même la surprise. C'est bien de découvrir par soi-même.
Je te dirai après.
Non, pas devant Béa, elle veut pas.
Moi, je l'ai lu. Je venais d'entendre une information comme quoi en Chine, ils étaient en train de chercher à créer des utérus artificiels. Et donc, j'étais complètement dans ce que j'avais entendu. Et je lisais en même temps ce livre. Et même s'il n'est pas question d'utérus artificiel, malgré tout, je trouvais qu'il y avait vraiment un lien. Un lien fort, et je me suis dit, oh, Mais c'est... Oui, voilà, c'est...
Bah, y a beaucoup de, y a beaucoup d'expériences qui avaient été arrêtées, qui ont repris justement sur le, et notamment en Chine, sur le climat, pour jouer sur la météo, pour faire pleuvoir les endroits où il devrait pas pleuvoir,
Ouais.
etc. Et ça, c'est des choses qui étaient déjà faites dans les années 70 et qui avaient été un peu, on n'en parlait plus trop parce que justement les scientifiques alertaient sur les dangers de ces pratiques-là. Parce que si on fait pleuvoir là, le nuage ne va pas pleuvoir là où il peut, là où il doit pleuvoir d'habitude. Et donc ça va détraquer. C'est la même manière qu'on ne plante pas tous les arbres partout. C'est qu'il faut respecter certaines, certains écosystèmes et que c'est pas, on ne peut pas jouer au savant fou parce que c'est là que
Voilà.
tout, tout, enfin, on accélère la fin plutôt que la retarder. Et donc, alors il y a beaucoup d'expériences qui sont faites justement. Alors, sans trop en dire, sur le climat, sur, c'est-à-dire que, y en a beaucoup qui sont devenus. En fait, y a deux écoles. Hein, c'est-à-dire, il y a ceux qui pensent qu'il faut sauver un maximum le monde tel qu'il est, et il y en a d'autres qui disent on ne va pas pouvoir se passer de l'industrie, de tout ça, donc on va voir comment est-ce qu'on pourra vivre dans le monde avec 2 degrés de plus. Plutôt, on ne va pas arrêter de produire, on va plutôt construire des digues, comme ça l'eau elle monte, mais on est protégé. Donc, ne changeons pas nos habitudes. Voilà.
Mais justement, le livre interroge vraiment là-dessus. Et je me suis arrêtée dans ma lecture un moment pour regarder le reportage de David Attenborough, c'est ça? Donc si vous avez Netflix, il est dispo sur Netflix. Et sinon, ça s'appelle Une vie sur cette terre ou Une vie sur la terre,
Ah,
je
je me souviens
crois.
plus là, c'était
Où en fait, donc il a 93 ans aujourd'hui, David Attenborough. Il a été... chercheur, explorateur pendant des années. Et là, il a fait une émission, il a fait un reportage où il retrace depuis les années 50 tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vu se perdre. Et ça, heureusement, la deuxième partie du reportage explique pourquoi et comment on peut encore endiguer ce problème de réchauffement climatique. Et c'est vrai que c'est touchant parce qu'il donne, il donne des solutions en fait. Voilà, après ça dépend pas forcément de nous. Enfin, y a des choses à mettre en place. Mais vraiment, ce reportage est génial. Et je suis contente d'avoir... Dès qu'elle en parle, c'est Ava qui en parle. Parce qu'un soir, Ava est invitée dans une soirée. Et elle ne peut pas s'empêcher de parler des orang-outans qui meurent à cause du Nutella. Et donc, elle pourrit la soirée, tout le monde lui dit non mais t'es obligé de parler de ça, enfin, on est en train de s'amuser. Et elle parle de ce reportage, donc ouais, j'ai eu le réflexe de tout de suite aller le regarder parce que j'aime bien avoir en tête ce dont on parle. Et vraiment, je vous le conseille. Donc c'est un livre pour les jeunes, mais vraiment il y a plein d'interrogations et c'est intéressant de t'avoir lu aussi dans ce format-là. C'était inattendu parce que quand j'ai... Je vous ai invité, je n'avais pas encore vu ce livre.
Surtout que l'écriture est très différente de
Oui,
celle de mes autres livres. C'est ce qui a
totalement.
désarçonné quelques.
Totalement, faut pas s'attendre à vraiment retrouver ton style.
Alors,
C'est, il y
paradoxalement,
a des...
il est plus dur. Enfin, je pense que mes romans ont un côté un peu sombre parfois, mais ils sont plus doux.
Oui,
Alors que celui-ci
il est dur celui-là
est
quand
plus
même.
dur.
Ouais.
Plus dur que mes
Humainement,
romans, ouais.
oui, humainement, il n'y a pas eu de pincettes prises, quoi. C'est les deux personnages, que ce soit Ulysse dans son centre ou Ava dans son lycée, rencontrent des questionnements et des choses assez rudes. Voilà, mais je vous les conseille aussi.
Oui, c'est ce que
Ouais.
je disais tout à l'heure. De toute façon, l'écriture, elle est au service de l'histoire. Donc parfois,
Tu
c'est pour ça
adaptes
que ce que je
aussi.
disais par rapport aux grossièretés, parfois, quand c'est utile, ça va donner une couleur au livre et que j'avais besoin de ça
Et
pour raconter
là,
cette
dans
histoire.
Requiem pour une apache, tu t'es un peu lâché du coup de ce
Ouais,
côté.
bah à un moment, il y a 4 ou 5 pages, même peut-être plus, avec que
Ouais,
des
c'est
insultes.
ça. Et il y a un moment où... Alors ta gueule, je crois que c'est ça que tu
Ah, ouais,
répètes au moins
alors.
15 fois.
Ah, ben
Oui,
oui,
alors moi,
mais.
mon père, il était peintre sur la tour Eiffel, alors ta gueule.
Ouais.
Et en fait, et en même temps, ça colle avec l'ambiance, le personnage de Jolene et son environnement. Ça donne...
Ouais, oui, non, c'est
Mais
celui-là. J'essaie
c'est...
de retrouver leur ta gueule, parce que l'autre, c'est vraiment. Alors,
Je me rappelle
c'est
plus
marrant
les...
parce que c'est des passages que je vais lire devant des lycéens dans 15
Ça va,
jours.
bravo.
Ouais.
Ça va leur apprendre des mots.
Bon, alors je pense qu'ils les connaissent déjà. Hein. Je pense qu'ils vont m'en apprendre. Oh,
Non,
toi,
non,
tu aurais pu
non,
dire. Ah,
c'est des
bah.
lycées dans un milieu particulier.
Ah, bah écoute, là, ils vont être servis
Je m'en
parce que j'ai
fiche.
lu tous les passages.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, hein, finir sur quelques questions, que ce soit à David ou à Gilles, l'édition, l'écriture, les thèmes abordés, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer.
Monsieur. Oui, j'avais une question, de savoir quel est le travail de l'éditeur par rapport à l'auteur. Moi, dans ma petite tête, comme ça, je dis, l'auteur apporte son livre, l'éditeur, il regarde si ça colle et s'il va pouvoir, si ça l'intéresse, s'il va pouvoir le vendre. Parce qu'un éditeur, également, c'est quelqu'un qui doit vivre de ses métiers d'éditeur et qui fait vivre le libraire, l'auteur, etc. Donc, je voudrais savoir quel travail c'est vous, que vous faites avec l'auteur, c'est-à-dire vous le corrigez. Vous dites ça ne colle pas, il faut l'écrire d'une autre façon, etc. C'est ça. Alors, que j'aurais voulu savoir un petit
tout
peu.
Tout d'abord, vous avez bien fait, vous, dans votre propos liminaire, vous avez rappelé quelque chose d'important, c'est que le travail d'éditeur, c'est un travail de commerçant. Alors, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on commerce des idées, donc on travaille sur la conversation collective, et on doit savoir vendre un livre. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de rater quand on est éditeur ou éditrice. C'est... on fait un bon livre, mais il n'a pas de lecteur. Et là, on a raté. Ou sinon, on fait un mauvais livre, mais il a beaucoup de lecteurs. Là, on a raté aussi. Voilà. Donc, il faut trouver un moyen, faire les meilleurs livres et les faire lire au plus grand nombre. Donc, effectivement, c'est un métier de commerçant. Mais le métier de commerçant, comme il a deux sens, pas que le commerce physique, c'est aussi le commerce intellectuel. Le commerce intellectuel, ça passe par un travail de discussion. Le travail de discussion, c'est à la fois, il y a deux parties dans notre travail, donc une partie commerciale et une partie qu'on appelle la production. Et la production, c'est pas juste faire le livre physiquement, c'est aussi travailler avec l'auteur intellectuellement. Ça va être très variable selon les auteurs. Avec le temps, je me rends compte que je deviens très pragmatique, c'est-à-dire que je vais me coller à chaque auteur et faire selon la manière qui est la manière qui lui permet d'avancer, puisque je ne changerai pas la manière de travailler des auteurs, et c'est pas, ils ne peuvent pas coller à ma manière de travailler. Donc il y a des auteurs des forges. Prenons un exemple, Romain Ternaux, qui était notre auteur de janvier, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 20 ans, a décidé de ne jamais se coucher un soir sans avoir écrit une page en entier. Donc il écrit une page en entier, parfois... Il rentre dans le mariage, il est 4h du matin, il est rond comme une barrique, et il écrit quand même sa page. Vous devinez que ce n'est pas les plus belles pages de la littérature qu'il a écrites comme ça. Il les empile. Oui, parfois il a des intuitions géniales, mais parfois ce n'est pas des intuitions géniales. Mais il écrit comme ça, au bout de 3 mois, il a un premier jet. Et c'est après que commence le travail de reprise. Donc là, on va discuter, je vais lui dire, Romain, tu t'en es pas rendu compte, mais telle scène, tu la répètes 2 fois. Et donc, on ne veut pas la faire 2 fois dans le livre, quand même, parce que ça répond à aucune logique. Donc, on fait un travail de coupe, de recomposition, et parfois, je lui dis, telle histoire que tu ouvres, qui est une fenêtre narrative fantastique, tu ne la refermes pas, donc il faudrait la refermer, c'est-à-dire raconter la fin de cette partie de l'histoire. Donc voilà, ça c'est avec Romain. Il y a d'autres auteurs, il y a plusieurs auteurs des Forges qui sont scénaristes de profession. Donc, eux, ils travaillent très différemment, ils font un plan, vraiment comme un plan d'architecte, et là, on discute parfois du plan d'architecte. Mais après, eux, ils écrivent, et le travail de reprise, après, est plus court, en fait. Sur Gilles, parfois, on parle longtemps avant qu'il y ait un texte. On dit « Ah, je voudrais écrire sur ça. »
Je réfléchis énormément au sujet dont je vais parler, et ce qui inquiète parfois David, parce que quand on décide, on se dit dans l'idéal, par exemple, là, de sortir mon prochain roman pour la rentrée littéraire, et c'est vrai qu'en septembre, j'avais toujours pas écrit une ligne. Et David commençait à me dire, mais bon, peut-être que là, tu as bien réfléchi, tu l'as. Il faudrait peut-être y aller. Et c'est vrai que moi, je suis pas tellement inquiet parce que je mûris énormément le texte. Là, c'est un livre qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, donc je me suis beaucoup documenté. J'ai été sur des sites de la guerre. J'ai écouté beaucoup de témoignages, d'émissions, de chansons de cette époque-là, pour être dans un bain. Et je savais qu'après, j'allais dérouler l'histoire. Et que ça... En plus, j'avais envie d'écrire un roman assez court, et que je déroulerais cette histoire assez rapidement. Et donc, tout ça était nourri par des conversations avec David. Par exemple, il pouvait me dire, ah, je crois que tu regardes le travail, il y a un graveur allemand de 1915, et ça pourrait être intéressant. Donc, voilà, c'est beaucoup de conversations comme ça. pour la partie de création pure. Et après, il y a le travail de correction, de me dire, mais tu ne devrais pas le commencer comme ça, ton texte, parce que tu devrais... Ou alors, tel personnage, on ne le comprend pas assez bien, mais peut-être parce qu'on ne sait pas de quel milieu il est, ça serait bien que tu arrives à glisser un moment... qu'on sache s'il y a un milieu populaire ou un milieu privilégié. Alors, ça, c'est pas le cas sur ce livre-là, mais c'est ce genre d'exemple de me dire, voilà, tel personnage, ou alors tel personnage ressemble beaucoup à... Tu décris son corps et tu dis qu'il est tout tordu, et il y a un autre personnage, tu le décris un peu de la même manière, du coup, ils se confondent. Donc là, c'est tout simple. Quand il me dit ça, je dis, bah oui, c'est évident, donc bah, je le redresse. Quoi.
Et les comparaisons qu'on pourrait faire, c'est tout à l'heure, je disais, en fait... C'est une construction récente de croire que les écrivains écrivent tout seuls dans leur coin. Historiquement, il y a des écrivains qui ont écrit tout seuls dans leur coin, mais beaucoup d'écrivains avaient des correspondants, avaient des cercles autour d'eux qui allaient leur faire des remarques. Mais les remarques qu'on fait, ça ne donne aucune autorité aux autres sur le texte. L'auteur reste l'auteur à 100% de son texte. Ou parfois, une comparaison que je peux avoir, c'est... je ne sais pas si vous connaissez le sculpteur Brancusi, un sculpteur franco-roumain du début du XXe siècle. En fait, Brancusi faisait le dessin de l'œuvre, et après, il y a des ouvriers qui faisaient la fonte pour lui, parce que Brancusi ne faisait pas la fonte. Et après, Brancusi repassait, finissait. Mais les ouvriers de Brancusi n'ont jamais pensé qu'ils étaient les auteurs de l'œuvre de Brancusi. C'est bien Brancusi qui a fait l'œuvre, même si effectivement d'autres personnes ont eu leurs mains dedans. Mais de la même façon, après, il y a un correcteur professionnel, par exemple, qui travaille sur le texte des auteurs. Moi, je n'ai pas les compétences pour être correcteur professionnel.
C'est quoi un correcteur ?
Un correcteur professionnel, c'est quelqu'un qui corrige les fautes d'orthographe.
Ah bon ?
Et de typographie.
Et de typographie. Alors, il faut faire très attention, parce qu'en France, les gens ont un bon niveau culturel. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être correcteurs. Être correcteur professionnel, c'est très technique. C'est-à-dire qu'on est doué pour repérer les erreurs, mais parfois comprendre d'où vient l'erreur, la corriger. C'est assez compliqué quand même.
Et c'est, donc, là encore, c'est un dialogue avec l'écrivain, parce que, par exemple, le correcteur, on a eu une grande conversation sur l'utilisation des virgules, parce que moi, je suis assez avare en virgules, parce que...
Moi, j'adore les virgules. Je mets des incises, parce que je trouve que c'est plus...
Moi, je suis contre les points d'exclamation, et je suis... avare de virgule, parce que la virgule impose un rythme et qui est pas forcément le rythme que j'ai envie de donner. Et donc j'aime bien que le lecteur je pense que il y a d'autres moyens de, en choisissant les mots, en choisissant les assonances, les allitérations, les répétitions, on arrive à imposer déjà un rythme. Et c'est vrai que à chaque fois le correcteur me maintenant on a travaillé ensemble, donc, mais il sait que c'est, il parle pas des virgules comme il parle à quelqu'un d'autre de virgule. Voilà.
Non, et le correcteur, c'est un vrai technicien du texte qui travaille après moi, en fait. Normalement, l'auteur et moi, on établit le texte, et après, le correcteur arrive. Mais parfois, le correcteur va faire une remarque qui a une importance éditoriale. C'est-à-dire, il va dire, là, en fait, vous avez décidé de mettre partout le subjonctif imparfait. Mais il est licite en français actuel de mettre parfois le subjonctif présent dans un texte au passé, pour des questions d'oreille. Parce que certains subjonctifs imparfaits sont vraiment durs à l'oreille. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me lister les subjonctifs imparfaits, et on va repérer sur la liste des 20 celui qui est horrible à l'oreille, mais on va pas pouvoir juste mettre celui-là au présent. Parce que si on met celui-là au présent, ça sera perçu comme une erreur. Donc, en fait, il faut qu'on décide à ce moment-là, et ça, c'est une question éditoriale, pas une question de correction, si on fait tout basculer. Et là, on relit le texte, on fait ce qu'on appelle une passe, on relit tout le texte pour savoir s'il passe bien à l'oreille avec du subjonctif présent ou du subjonctif imparfait. Ça veut dire que c'est une chaîne où la correction, ça vient après nous, mais parfois ça renvoie le texte vers nous.
Oui, et puis ça questionne, moi je me rends compte, je comparais ça aux liaisons. Quand on lit un texte à voix haute, il y a des liaisons qui passent très mal. Par exemple... Moi, je fais une lecture musicale que je tourne un petit peu, justement, que je vais aller jouer à Auxerre. Et le 17 février, mars, si vous êtes à Auxerre, je joue sur la péniche avec un musicien. Et donc, y a une question que je me suis posée, il y a un moment où il y a les larmes aux yeux. Mais si on le dit bien, il faut dire les larmes aux yeux. Mmh. Mais les larmes aux yeux, ça, c'est bizarre.
Ça bloque.
Et moi, j'ai tendance à les faire, mais je sais qu'il y a des liaisons que je fais. Et les gens me disent, mais t'as pas fait une erreur de liaison,
ouais,
là. Et je dis non, mais... Et moi, j'aime beaucoup faire les liaisons. Autant les virgules...
Mais après, le travail éditorial avec certains auteurs et autrices, c'est que moi, je ne suis pas auteur. Je n'ai pas d'instinct créatif très fort. Donc, je ne pourrais pas écrire des premiers jets. Je ne peux pas le faire. Je ne me prends pas pour un auteur. Les auteurs, parfois, ont des intuitions complètement géniales, mais ce n'est pas du domaine complet du rationnel. Donc, parfois, il y a des choses qui peuvent leur échapper parce qu'ils n'ont pas de recul sur leur propre texte. C'est très dur d'avoir du recul sur son propre texte, parce que quand on lit son propre texte, on a autre chose, on a quelque chose qui tourne dans la tête, qui peut être un écran entre vous et votre propre texte. Et moi, par contre, la musique qu'il y a dans la tête de l'auteur, je ne l'ai pas initialement. J'ai que le texte devant moi. Et si je sens que là, par exemple, ah, mais ça, c'est une allusion à telle chose, à tel événement historique. Et parfois, il y a un moment d'épiphanie chez l'auteur qui dit... Je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Et donc, je vais réécrire, parce que c'est une bonne idée. Et voilà.
Moi, je me souviens, sur Un funambule sur le sable, il y a un personnage qui est la meilleure amie de Lélie, donc l'amoureuse du narrateur, et qui incarne vraiment la sagesse, ce personnage. Et donc, David me dit, ah, c'est une bonne idée d'avoir appelé Sophie, parce que... J'ai dit, bah évidemment, c'est pour ça.
Évidemment, c'est réfléchi.
Mais c'est inconsciemment, c'est évident que c'est pour ça que j'ai choisi. Mais je m'en étais même pas rendu compte. Quoi.
Donc c'est presque de la coproduction entre...
Non.
Non, c'est un accompagnement, c'est une discussion.
Oui, quand on voit l'échange...
Non, mais non. Oui, alors déjà, là, on parle de ça. Mais il faut voir quand même que c'est 1% du travail, c'est-à-dire les 99% sont bien du côté de l'auteur. Et par exemple, dans les textes des Forges, il n'y a aucun mot de moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais écrit une phrase dans un seul de ces textes. Jamais susurré une phrase.
Oui, il va dire par exemple, là ce mot ça ne convient pas, il ne va pas dire, si c'était toi je mettrais plutôt tel mot. Voilà. Ça ne va pas.
C'est-à-dire à l'oreille, je peux dire qu'il y a une dissonance, mais souvent je ne sais même pas par quoi remplacer le mot. Je dis, il y a une dissonance, c'est à l'auteur de trouver la chose. La solution, ça peut être trouver le bon mot, couper la phrase, la reconstruire. Voilà. Donc mais c'est très variable. Il faut s'adapter aux auteurs. Et donc, il y a des textes qui sont arrivés si ficelés que le travail éditorial a été court parce que je voyais pas trop comment intervenir. Il y a des textes sur lesquels il y a eu un très long travail, mais un long travail, ça peut être très agréable aussi. C'est très variable, mais c'est pas pour rendre le texte plus commercial, c'est pour rendre pour pousser le texte au bout de sa logique, pour se dire à la fin, ça sera fini et on n'aura pas de regrets. On n'aura pas envie dans un an de se dire ah mais on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. C'est juste, je suis plus, vous voyez, c'est comme voilà, alors je ne fais jamais de sport, mais je vais faire une métaphore sportive ou une comparaison sportive. Le coach, je ne suis pas le coureur. Donc en fait, la victoire du coureur, c'est la victoire du coureur. Et moi, je suis plus là à pousser, dire voilà, mais aux Jeux Olympiques, on voit qu'il y a des coachs qui sont en très net surpoids et ce n'est pas eux les coureurs, quoi. Parce que ce serait très dangereux pour leur santé. Mais voilà.
Bon, on est obligé d'arrêter parce que voilà, timing, on aurait pu franchement continuer. Moi, ça ne me dérangeait pas. On vous propose du coup... Alors, merci déjà à tous. Merci à Gilles et à David. C'était
merci
vraiment passionnant.
Merci d'être venu.
La prochaine fois, on commencera à 18h. Comme ça, on fera un truc. Mais merci à tous pour votre intérêt. Donc, on vous propose de boire un petit coup et de manger des petites verrines avant de partir. Et donc, vous avez les livres... Donc, en caisse, vous avez tous les livres de Gilles. Voilà, le but c'est aussi de vous faire la dédicace. Et...
J'ai amené mon stylo préféré. Aucun stylo.
Et donc, toi, tu restes là pour dédicacer.
Ouais,
voilà.
Et nous, on va manger.
Mais je vais bien
on va manger, et comme ça, vous pouvez faire la queue avec. Voilà.